Donc, bienvenue dans cet amphithéâtre Verniquet pour les quatrièmes journées Yves Brossard d'hémobiologie fœtale et périnatale. Donc, nous étions au même endroit il y a 10 ans lors des premières journées Yves Brossard, en fait les 10 ans des journées Yves Brossard, mais surtout en fait les 50 ans du centre d'hémobiologie périnatale. Donc, c'était l'occasion de faire un petit historique pour vous parler de l'histoire un peu de notre centre. Donc tout commence en fait aux origines avec Arnaud Tsank. Donc un jeune médecin qui avait été réquisitionné sur le front pendant la Première Guerre mondiale, qui a donc vu beaucoup de soldats mourir d'hémorragie et qui a personnellement aussi perdu une sœur d'une hémorragie obstétricale, donc qui a dédié sa carrière au développement de la transfusion en France. Et donc en 1924, il crée les premières gardes de transfusion sanguine à l'hôpital Saint-Antoine avec un groupe d'internes. Et il va rapidement, avec les professeurs Gosset et Lévi Solal, créer une association qui s'appelle l'œuvre de la transfusion sanguine d'urgence, avec l'appui du professeur Roger, qui est alors le doyen de la fac de médecine, et du docteur Louis Mourier, qui est alors directeur de la PHP. Et cette association va pouvoir promouvoir la transfusion. Elle va être soutenue essentiellement par des dons de la PHP, de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, et des dons de mécènes, surtout des femmes de la haute société, comme la marquise de Crussol, madame de Cobo ou madame Rabadeutsch de la Meurthe. Donc la transfusion se développe et avec pas mal de succès. Et donc il va y avoir la création du premier centre de transfusion sanguine à Saint-Antoine en 1931. Donc c'est le premier en France, c'est un des premiers même dans le monde. Et donc ce centre va même acquérir une renommée internationale à tel point que Arnaud Tsank sera l'organisateur du premier congrès international de transfusion sanguine dans les locaux de l'hôpital Saint-Antoine à Paris en 1937. En 1938, du fait de l'activité qui évolue, qui s'expand, Madame Rabadeutsch finance la construction d'un second bâtiment à l'hôpital Saint-Antoine. Le voici, donc c'est un bâtiment important pour le centre du CNRHP parce que pendant de nombreuses années, il est resté dans ce bâtiment pendant de nombreuses années, et surtout la partie laboratoire qu'il a quitté que très récemment. Donc, ensuite arrive la Seconde Guerre mondiale avec un ralentissement un peu de l'activité des centres de transfusion. Mais outre-Atlantique, la recherche continue et Landsteiner et Wiener découvrent le facteur rhésus comme la cause principale de la maladie qui a été nommée l'érythroblastosis fœtalis. Donc c'est des cas de mort fœtale in utero dû à des anasarques fœtoplacentaires, donc liés à l'immunisation du couvent antidé chez les mamans et la destruction des globules rouges fœtaux porteurs de l'antigène D, l'antigène rhésus, qui était appelé antigène rhésus à l'époque. Donc après la guerre, l'activité du centre reprend et s'expand encore. Et le CTS de Saint-Antoine devient le centre national de transfusion sanguine avec le développement de collectes mobiles et dans les sous-sols du bâtiment Rabadeutsch, un centre de recherche par lequel passera Jean Dosset, futur prix Nobel de médecine pour ses travaux sur le HLA, et un certain Marcel Bessic qui va commencer à travailler justement sur la maladie hémolytique du nouveau-né du fait des découvertes récentes sur cette maladie, sur la physiopathologie de cette maladie. En 1947, va être créé un service spécifique au sein du CTS de Saint-Antoine, puisque ça va prendre de l'ampleur. Hein, du fait de la découverte de la physiopathologie de la maladie, des traitements vont commencer à apparaître. Et donc ce service va s'appeler le service de la maladie hémolytique du nouveau-né. Il va être dirigé initialement par le docteur Bessy, puis par les docteurs Buot, David et Simon à Saint-Antoine, avec la réalisation des exanguinotransfusions dès les années 50. En 1949, le CNTS et surtout sa partie recherche, qui est toujours dirigée par Arnaud Tsank, va déménager à Cabanel dans le 15e arrondissement. Et c'est le professeur Robert André qui va reprendre la direction du CTS de Saint-Antoine pour l'activité opérationnelle du CTS. Et donc, voilà. Le professeur Robert André va partir à la retraite en 1975, ce qui va entraîner la fusion du CTS de Saint-Antoine avec le CNTS. Et le service de la maladie hémolytique du nouveau-né va devenir le centre d'hémobiologie périnatale. Donc ne va pas suivre, va se séparer donc finalement du CNTS. Alors il va rester autonome du fait de son activité spécifique qui associe à la fois transfusion, néonatologie et biologie, et il va continuer à être géré par l'œuvre de la transfusion sanguine d'urgence. Donc à l'époque où le CHP démarre, donc en 1975, il y a 50 ans, son activité consiste essentiellement en des exsanguinotransfusions pour les établissements publics et privés de Paris et de l'Île-de-France, des équipes mobiles qui se déplacent dans tous les hôpitaux. Les activités de prise en charge de l'ictère, donc avec les débuts de la photothérapie dès les années 70, et des actes transfusionnels. Donc, à l'époque, le CHP dispose de 3 unités d'hospitalisation avec des lits en néonatologie, à l'hôpital Saint-Antoine, à Beaudeloc, donc, qui va ensuite être transféré à Saint-Vincent-de-Paul, et à Avicenne, qui va ensuite être transféré à Jean Verdier. Les premières transfusions in utero débutent dans les années 60. Donc, il s'agit de transfusions fœtales intrapéritonéales sous radioscopie, qui sont essentiellement faites au troisième trimestre de la grossesse. Donc, des médecins du centre vont aussi pratiquer ces premières transfusions fœtales. Il y aura également les premières plasmaphérèses à visée thérapeutique et puis des prélèvements de plasma de patientes alloimmunisées anti-D après leur accouchement pour pouvoir réutiliser ces plasmas dans le contexte de la prévention rhésus du postpartum qui va commencer à être développée dans les années 70. D'un point de vue de la biologie, c'est essentiellement des dosages de bilirubine à la fois dans le sang des nouveau-nés et dans le liquide amniotique chez les fœtus pour avoir un reflet de l'intensité de l'hémolyse, et le dosage pondéral des anticorps qui va être mis en place par le docteur Crégu dans les années 60 au CHP, qui permettra donc d'anticiper un petit peu les cas où la maladie hémolytique risque d'être sévère. Donc la période du CHP, dès 1975, va avoir 3 directeurs successifs, les docteurs François Pinon, Huchet et puis le docteur Yves Brossard. Et donc pendant cette période aussi, il va y avoir encore beaucoup de développement, notamment donc dans les 3 domaines qui sont la biologie, la néonatologie et tout ce qui est prénatal. Au niveau de la biologie, c'est la mise au point de dosages de fractions spécifiques de la bilirubine qui sont un meilleur reflet de la neurotoxicité, à savoir la BIE puis la BNL. À partir des années 90, donc sous la direction d'Yves Brossard, il va y avoir énormément de recherches et de développement de tests avec l'avènement de la technique GEL qui permet de mieux dépister les alloimmunisations chez les femmes enceintes, des progrès au niveau du test de Kleuer avec des techniques pour essayer d'identifier, dépister les hémorragies fœto-maternelles en cas de cellules interprétables, la cytométrie en flux, des techniques de phénotypage sur des hématites trophoblastes qui vont rapidement être remplacées par des techniques de biologie moléculaire avec des PCR sur liquide amniotique, des tests de cytotoxicité dépendante, enfin des tests cellulaires en fait pour voir la cytotoxicité dépendante des anticorps, et puis aussi toutes des techniques de sérodépistage de 3 virus principalement, le VIH, le VHC et le VHB, avec tout un volet transmission virale fœto-maternelle qui va se développer dans le CHP. Et aussi également un travail pour rechercher des immunoglobulines monoclonales candidates pour remplacer les sérums des plasmas immunisés, les plasmas des patientes immunisées dans le contexte de la prévention rhésus. En néonatologie, c'est surtout des travaux qui vont permettre de développer le biliribunomètre transcutané avec sa généralisation ensuite en première intention en cas de suspicion d'ictère chez les nouveau-nés. Et puis une participation active du CHP pour développer et améliorer la photothérapie. Dans les années 90, c'est l'avènement de la photothérapie intensive qui va être introduite en routine dans les cas d'ictère sévère. Et ça va permettre vraiment de diminuer de manière très importante le nombre d'exsanguinotransfusions et donc les durées d'hospitalisation. Donc il y aura de moins en moins de lits dévoués à l'activité néonatologie du CNRHP. À la fin des années 90, c'est aussi la création de consultations spécialisées au centre de santé Sylvain Buot, des consultations ICTER, des consultations sur la prévention et des consultations conseil en cas d'immunisation, qui, vous verrez, continuent à encore une activité importante dans notre centre actuellement. Et puis, donc, pendant le CHP, c'est aussi l'avènement vraiment de la prise en charge prénatale des alloimmunisations fœto-maternelles. Jusqu'à présent, c'était surtout une prise en charge néonatale, même si on avait commencé à avoir des premières transfusions intrapéritonéales. En 85, c'est le développement des premières transfusions intracordonales et les premières exsanguinotransfusions in utero, qui vont ensuite être remplacées par des transfusions in utero simples. Dans les années 95, c'est tous les progrès qui sont faits au niveau de l'échographie fœtale pour rechercher des signes d'anémie. Et puis surtout, dans les années début des années 2000, c'est l'avènement du Doppler qui va permettre de mesurer les vitesses à l'artère cérébrale moyenne et donc qui a un vrai reflet indirect et non invasif de l'anémie fœtale. Donc ça permet de détecter très tôt la présence, le développement d'une anémie fœtale de manière non invasive chez le fœtus. Et puis parallèlement à l'activité de biologie, il y a également beaucoup de recherches sur les infections materno-fœtales virales. En 2004, le CHP va devenir le Centre national de référence en hémobiologie périnatale. Effectivement, donc, l'œuvre de la transfusion sanguine d'urgence commence à avoir, qui fonctionne toujours sur des dons, c'est un peu difficile financièrement pour soutenir l'activité intense du CHP, et donc elle va pouvoir être intégrée à la PHP, ce qui va permettre d'assurer une pérennité du centre. Et donc, il y a une circulaire ministérielle DGS-DHOS du 19 mars 2004 qui va nommer le CHP en centre national de référence. Ça va reconnaître son expertise historique et lui donner une légitimité au niveau national. Donc, cette circulaire lui confie également deux missions, mission de coordination nationale de la prévention et des soins dans deux domaines importants de la périnatalité, qui sont l'immunisation fœto-maternelle anti-érythrocytaire et l'ictère néonatal. Donc tout ce qui était volet infection virale fœto-maternelle va s'arrêter. Les trois types de missions données par la circulaire sont des missions cliniques, biologiques et d'expertise qui vont intégrer tout ce qui est conseil, suivi des patients, formation, information, recherche, enseignement, et également veille sanitaire et épidémiologique. Donc cette transition CHP-CNRHP va être gérée par le docteur Yves Brossard, qui va continuer à coordonner cette activité. L'organisation initiale, ça va être une organisation en FAMBA, c'est-à-dire une collaboration clinico-biologique, un format inédit au sein de la PHP, avec deux unités fonctionnelles qui vont être groupées sur Saint-Antoine. Donc Yves Brossard va coordonner les premières années du CNRHP. La coordination va ensuite être reprise par le professeur Bruno Carbone, avec comme coordonnateur adjoint le docteur Michel Vaubourdol. Et le docteur Agnès Mailloux va être responsable de l'unité fonctionnelle de biologie, et le docteur Anne Cortet, l'unité fonctionnelle clinique. En 2012, la maternité de Saint-Antoine ferme et déménage à Trousseau, alors que la biologie reste à Saint-Antoine, donc ça entraîne une séparation physique des deux composantes du CNRHP. Et en 2015, le CNRHP est restructuré en un nouveau type de fédération à la PHP, et la coordination va être prise par le professeur Jean-Marie Joannic, avec toujours le docteur Michel Vaubourdol comme coordonnateur adjoint. Toujours une UF de biologie à Saint-Antoine, dirigée par le docteur Agnès Mailloux, et une UF clinique, donc les cliniciens référents successifs vont être le docteur Anne Cortet, le docteur Emeline Maisonneuve, et maintenant le docteur Paul Maurice, qui est situé à Trousseau et rattaché au service de médecine fœtale. En 2021, avec la fermeture de l'INTS, les activités du département d'immunologie plaquettaire dirigé par le docteur Rachel Peterman vont être intégrées à l'activité du CNRHP, ce qui va permettre d'étendre les activités et l'expertise au domaine de l'alloimmunisation fœto-maternelle plaquettaire. En 2023, l'unité de biologie devient un service pour prendre en compte l'élargissement du périmètre de ses missions. Et très récemment, le laboratoire a déménagé dans le bâtiment Robert-André. Donc nous sommes toujours sur Saint-Antoine, et vous voyez, nous avons toujours un nom de bâtiment lié un petit peu à notre histoire. Alors depuis 2004, on a pu continuer à avancer dans les différentes missions du CNRHP. On a pu poursuivre la biologie d'urgence en assurant vraiment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des bilans d'ictère, des bilans d'incompatibilité, des dépistages des hémorragies fœto-maternelles et des bilans de prévention rhésus, avec une garde qui est toujours sur Saint-Antoine, mutualisée avec d'autres disciplines de la biologie. Et on a poursuivi le développement des tests et surtout progressé au niveau de l'automatisation des tests pour optimiser le diagnostic et le suivi des patientes et de leurs bébés. Donc au début, c'est surtout la mise au point des génotypages fœtaux non invasifs sur sang maternel, donc le RHD en 2004, puis le RH petit C et le RHE qui permet le diagnostic de la compatibilité de manière non invasive en anténatale, et puis l'automatisation d'un certain nombre de tests biologiques, la BNL, les dosages pondéraux, les microtitrages, les titrages, le développement aussi de la cytométrie en flux pour les tests de Kleuwer en cas de patients qui ont des cellules ininterprétables, et puis toutes les techniques sérologiques et moléculaires d'immunologie plaquettaire depuis 2021. Donc on a pu accréditer aussi nos examens selon la norme 1589, depuis 2012, et nous sommes labellisés LBMR, Laboratoire de Biologie Médicale de Référence, depuis 2021 pour le diagnostic et le suivi anténatal et postnatal des incompatibilités fœto-maternelles et pour l'immunisation anti-plaquettaire. D'un point de vue soins, au sein du service de médecine fœtale, au niveau du CNRHP clinique prénatal, donc ça reste un centre qui est vraiment une référence pour tout ce qui est réalisation d'échographie Doppler pour le diagnostic de l'anémie fœtale de manière non invasive. C'est aussi le plus gros centre en France qui organise des transfusions fœtales avec une astreinte et des patientes qui viennent d'un peu partout pour bénéficier de ce geste. Des consultations de suivi des alloimmunisations sévères et puis des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaires hebdomadaires dédiées qui sont adossées à l'activité du DPN de Trousseau. et des consultations préconceptionnelles. Et pour la partie néonatologie que le docteur Wirth gère, c'est tout ce qui est activité, donc conseil dictaire. Donc, on n'a plus de lit dédié, hein, puisque voilà, mais c'est vraiment une activité très intense de conseil avec une permanence téléphonique, de nombreux appels par mois pour guider la prise en charge des nouveau-nés ictériques ou anémiés, ou même thrombopéniques maintenant, et des consultations de suivi ictère, donc avec des bébés qui sont revus après la naissance par les pédiatres et les infirmières du CNRHP version néonatologie, et également des consultations conseil pour les patients allo-immunisés. L'expertise, donc le CNRHP a continué à participer à la rédaction de nombreuses recommandations, des recommandations sur la prévention rhésus, donc les différentes recommandations du CNGOF, hein, des obstétriciens, du Collège national des gynécologues obstétriciens de France, des recommandations pour la pratique clinique pour la prise en charge de l'ictère, l'interprétation de la bilirubinémie, tout ce qui est suivi biologique des incompatibilités, la réalisation du test de Kleuwer, également des outils pour les cliniciens comme le trousseau de poche dont nous vous parlerons cet après-midi, des plaquettes informatives pour les familles, et depuis 2012 nous avons un site internet comme moyen de communication. Des conseils individualisés toujours pour la prise en charge des grossesses par des conseils clinico-biologiques que l'on peut donner, notamment au cours des RCP qui sont gérés par les sages-femmes coordonnatrices et coordinateurs successifs qu'on a eus au CNRHP et qui jouent vraiment un rôle de centralisation au sein de ces RCP. Donc ça a été Pauline Thomas au départ et maintenant Bertrand Laffont et Isabelle Régnier. Et puis la télé-expertise nationale également depuis quelques années. Des participations à des RMM, des RCP au niveau national avec la gestion de cas complexes, notamment tout ce qui est gestion de patients qui ont des allo-immunisations antipubliques, hein, qui ont des groupes sanguins rares, avec le FS et le CNRGS. Des participations à des études nationales, donc différents types d'études, l'étude Jennifer par exemple, qui a permis le remboursement du génotypage fœtal, un certain nombre d'états des lieux au niveau des transfusions, l'étude des pratiques des laboratoires, des études de commutabilité de la bilirubine pour essayer d'harmoniser les résultats entre les laboratoires, et puis des études également internationales avec l'étude Dionysus, dont on vous parlera aussi cet après-midi, puisque le docteur Enrico Lepriori est là. D'expertise toujours au niveau de l'évaluation de l'efficacité des nouvelles thérapeutiques, les IGIV, le PO, des recherches sur différentes thématiques, des participations à des essais cliniques et des participations toujours aussi au développement et à l'optimisation des appareils de photothérapie avec la contribution pour le bilicocoon, hein, donc c'est un tissu en fibre optique qui permet donc que les bébés restent près de leur maman pendant leur séance de photothérapie. On vous a parlé au cours des dernières journées Yves Brossard. Des développements aussi au niveau de la biologie, de programmes d'évaluation externe de la qualité en collaboration avec Asqualab, tout ce qui est formation, enseignement et de la coopération au niveau international, notamment dernièrement un partenariat avec le CNTS et le service de néonatologie de Bamako. Donc pour conclure, du CHP au CNRHP, c'est 50 ans d'engagement avec un personnel motivé et dévoué à la prévention, au diagnostic et à la prise en charge de la maladie hémolytique fœtale et néonatale, donc du personnel nombreux personnels qui font toute leur carrière au sein de ce centre, ce qui montre leur implication. Une extension aussi du domaine d'expertise au diagnostic et à la prise en charge des thrombopénies fœtales et néonatales. Et puis des évolutions et des progrès importants depuis 50 ans et qui continuent avec des innovations et des perspectives qui sont toujours stimulantes actuellement. Voilà, pour conclure, je remercie l'ensemble du personnel du CNRHP aujourd'hui. Voilà, merci.